Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Que faites-vous mardi 24 septembre 2019? J'organise, en collaboration avec Chloé du podcast Nouveau Modèle, un petit déjeuner et une table ronde à Paris. Vous pourrez non seulement savourer de délicieuses friandises, boire du très bon thé, mais surtout participer à un atelier olfactif et écouter les invités nous raconter leur parcours et leur histoire. Nous parlerons d'alimentation saine avec Camille de Funky Veggie, qui était d'ailleurs l'une de mes invitées de la saison 2, de parfum avec la créatrice de Nolensa, et de mode éthique avec Bianca de la boutique Cabane. L'événement est totalement gratuit, il suffit juste de réserver en envoyant un email à contact@basilicpodcast.com. Cette semaine, je reçois Maxime. Il est ingénieur au sein du think tank The Shift Project et vient de publier un rapport sur l'empreinte écologique du numérique et notamment la vidéo. Un sujet passionnant que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Dans cet épisode, Maxime nous explique pourquoi la vidéo est si énergivore et l'attitude à adopter en tant que consommateur pour limiter cette pollution numérique au maximum. Bonne écoute à tous!
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi en tant que personne et puis après on reviendra sur le contexte professionnel dans lequel tu évolues?
D'accord. Donc je m'appelle Maxime Efouy-Hesse. J'ai une formation d'ingénieur dans une école qui forme à l'origine à l'aéronautique et au spatial, que j'ai faite parce que je voulais travailler dans le spatial. Et en fait, en troisième année, j'ai... Alors, je ne vais pas dire dérivé parce que je ne pense pas que j'ai switché de direction, mais disons que ce qui m'intéressait dans le spatial, en fait, je l'ai retrouvé dans les problématiques climat-environnement. Alors, pourquoi c'est quelque chose ? On pourrait parler très longtemps, mais du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les problématiques climat-environnement et avec, en plus, dans les problématiques climat-environnement, l'idée que je m'occupais des problèmes... là tout de suite, qui était un peu prégnant et urgent. Du coup, c'est comme ça qu'ensuite, je me suis orienté après mon diplôme d'ingénieur dans un master en climatologie pour essayer de comprendre un peu qui faisait les prévisions climatiques et comment ça marchait, quoi. Et du coup, je me suis mis à travailler pour The Shift Project.
Et The Shift Project, c'est... Alors, j'ai regardé sur votre site, vous êtes entre l'ONG, l'association, vous avez un peu un statut difficile à décrire et vous vous qualifiez d'une manière un peu originale. Donc, je te laisse en parler.
Alors, du coup, le Shift, c'est un statut associatif d'intérêt général à but non lucratif, pour les mots légaux. Et du coup, en termes de philosophie, on se qualifie de think tank, qui est un concept anglo-saxon, qui traduit en fait cette idée d'ONG, dans le sens où on n'est pas un organisme gouvernemental, on est bien un organisme privé, mais qui vise à interagir en fait avec les pouvoirs publics. L'idée, c'est de déblayer un peu le terrain sur ces questions. Nous, notre approche, donc vraiment avec des chiffres, on veut quantifier les choses pour poser correctement les questions avant de débattre des réponses. Donc, on considère que le débat des réponses, c'est bien une question politique, mais qu'en fait, il y a tout un avant qui consiste à compter les choses et à les mettre dans une balance et à faire la liste des options qui sont viables avant de débattre de quelle option on choisit suivant les compromis sociétaux qu'on prend en compte. Donc voilà, le Shift, c'est donc un think tank donc, qui a un statut d'association qui vise à, comme on le dit du coup dans notre signature, à éclairer et influencer le débat sur la transition carbone.
Et vous travaillez sur plusieurs thématiques. Donc toi, là, tu étais sur le pôle numérique, mais vous balayez aussi d'autres sujets.
Oui, en fait, on essaie de balayer tous les sujets. L'ambition du Shift, c'est d'apporter une synthèse des travaux scientifiques et les plus chiffrés possibles qui ont été faits sur tous les domaines de l'économie pour qu'on puisse prendre notre économie et hop, la faire shifter vers une économie bas carbone pour entrer dans les impératifs qui sont les nôtres au vu du contexte climatique et des contraintes carbone.
Et au sein de l'équipe, vous êtes majoritairement scientifique ou quelles sont les professions qu'on retrouve ?
Alors ça dépend ce qu'on appelle par scientifique. Ce qui est sûr, c'est que du coup, tout le think tank a une approche scientifique, mais du coup scientifique au sens large, dans le sens où on croise les sciences sociales, les sciences humaines et les sciences physiques. L'idée étant de vraiment de poser les questions correctement, quoi, et d'avoir les différents aspects, parce que nos systèmes, c'est donc justement sur les différents sujets qu'on traite, on traite le sujet de la mobilité, on traite le sujet de l'industrie, de l'énergie, on traite le sujet de stratégie d'entreprise, comment le secteur économique en fait s'intègre et doit rentrer dans ses contraintes. Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'on pose, et pour le faire correctement, au sein de l'équipe, donc déjà, on a différents types de profils, des profils qui sont issus de formation ingénieur, donc qui est le type de profil auquel j'appartiens. On a aussi des profils qui sont issus des sciences sociales et humaines, tout simplement pour savoir de quoi on parle, hein, parce qu'il y a des humains dans ces systèmes. Et ensuite, du coup, nos projets, quand on les construit, on construit des groupes de travail avec beaucoup d'experts qui viennent de l'extérieur, donc qui travaillent en université ou dans des boîtes privées ou dans les institutions, et pareil, qui représente un peu toute la palette des différents types de sciences, du coup, différents types de connaissances. Et on essaye de croiser tout ça pour finalement synthétiser quelque chose qui est pas déconnant, quoi, sur la vision générale des problèmes.
Donc toi, tu t'es intéressé là récemment au numérique.
Ouais.
Tu as contribué à l'écriture du rapport, donc j'imagine à tout ce qui s'ensuit avant. Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet-là en priorité ?
Sur le numérique ?
Ouais.
Alors, il y a déjà...
Parce que tu étais dans l'aviation au début, enfin...
Alors, du coup, déjà, oui. Alors, déjà, il y a une coïncidence de calendrier. Disons que je suis arrivé au Shift au moment où ça faisait partie des projets qui étaient lancés. Et ensuite... J'ai une formation d'ingénieur et du coup, j'aime la technologie en fait. Si je suis devenu ingénieur, c'est parce que gamin, je voulais construire une machine à remonter le temps. Je me suis dit, il faut que je devienne ingénieur pour apprendre comment on fait. Et mine de rien, ce rêve un peu bizarre là, il m'a amené jusqu'au bout de mes études. Du coup, la technologie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigé vers le spatial pour toucher aux technologies les plus pointues. Et en me lançant dans les problématiques climat-environnement, j'ai pas eu l'impression d'avoir abandonné mon rêve de spatial ou d'avoir rompu avec ce qui m'animait. Et je pense que ça vient juste du fait que ce qui m'intéresse dans la technologie, c'est la vraie innovation, on va dire. Quand on invente un truc et que ça révolutionne la société, ou que voilà, c'est pas le progrès au sens bête et méchant. On a inventé des capotes connectées parce que ça existe. C'est de réfléchir à comment on invente, pourquoi et dans quel contexte. Et du coup, les problématiques climat correspondent exactement à cette vision. Et du coup, le sujet du numérique, pour le coup, c'est vraiment ça qu'on a posé comme question. C'est est-ce que le numérique, c'est a priori bon ou mauvais au vu des contraintes qui s'appliquent à nous. Alors la réponse, c'est qu'il est a priori ni bon ni mauvais, mais qu'il faut l'utiliser correctement. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait.
On va revenir là-dessus, oui. Notamment avec la vidéo, qui est un sujet, je te le disais avant d'enregistrer l'épisode, mais que beaucoup, beaucoup d'auditeurs m'ont demandé de traiter. Et ça interpelle, ça interroge. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de la situation aujourd'hui avec la vidéo en ligne, le streaming notamment, qu'on consomme tous sans modération, et nous dire un petit peu et expliquer aux auditeurs pourquoi en fait ça pose des problématiques environnementales ?
Alors... déjà pour fixer un peu les idées, ça va avoir l'air un peu technique, mais ça l'est pas en fait. Le système numérique, on peut se le représenter en trois gros ensembles. Le premier, c'est ce qu'on appelle les terminaux, donc ça va être les ordinateurs portables, les smartphones, enfin ce qu'on utilise, quoi. Donc c'est la partie que nous on voit en tant qu'utilisateur. Le deuxième élément, c'est les centres de données dont on entend beaucoup parler maintenant depuis quelques années. Donc ces centres de données, c'est des grosses fermes de serveurs, donc des grosses pièces où on a mis plein de disques durs, hein, concrètement, qui stockent et qui calculent des choses. Voilà. Donc c'est là où l'information se trouve. Et ensuite, on a les infrastructures réseau. Donc ces infrastructures réseau, c'est tous les tuyaux en fait, qu'on a mis entre les centres de données et nos terminaux pour amener l'information et l'échanger. Donc ces infrastructures réseau, ça peut être les antennes pour le réseau mobile, c'est la fibre optique, c'est le réseau téléphonique, voilà, c'est tous ces réseaux-là qui sont mis en place pour permettre à l'information de circuler. Donc une fois qu'on a ces trois ensembles en tête, terminaux, infrastructures réseau et centres de données, on peut commencer à comprendre d'où vient ce qu'on a appelé l'impact environnemental du numérique, en fait, d'où vient la consommation électrique et énergétique. Donc la vidéo, commençons par la donnée de manière générale. Dès que j'utilise Internet, en fait, dès que j'utilise un terminal et que je me connecte au réseau, je vais échanger de l'information avec le réseau. Et en fait, chaque petit octet d'information, chaque unité d'information, elle va transiter par les réseaux et elle va être stockée ou déstockée quelque part sur un centre de données, pour être très schématique. Et tout ça, ça réclame de l'énergie à chaque fois. Tout simplement parce qu'il faut faire fonctionner les centres de données. Quand je vais les appeler, ils vont réagir, donc il va falloir leur apporter de l'énergie. Les infrastructures réseau, c'est les infrastructures, elles aussi, qui réclament de l'énergie. Et ensuite, il y a mon terminal qui réclame de l'énergie, c'est pour ça qu'on recharge la batterie. Donc, à chaque fois qu'on interagit avec le réseau, et donc on consomme ou produit de la donnée, il y a une consommation électrique derrière. La vidéo, dans le trafic de données mondial, ça représente 80% du trafic. Donc, c'est-à-dire que de tout ce qu'on fait sur Internet, il y a 80%, c'est des fichiers vidéo. Dans ces 80%, il y a 20% de vidéos live ou vidéosurveillance, et il y a 60% qui sont la vidéo, on va dire, à la demande. La vidéo, du coup, qu'on trouve sur les plateformes Netflix, YouTube, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est quantitativement important, dans le sens où ça représente 60% du trafic du monde, et aussi parce que en termes d'usage, tout le monde voit de quoi on parle, parce qu'effectivement, tout le monde regarde Netflix, on regarde tous YouTube, on apprend sur YouTube, on apprend avec la vidéo, on communique avec la vidéo, enfin voilà, donc c'est quelque chose qui vraiment recouvre beaucoup d'usages et qui s'est développé finalement très rapidement. Donc c'est un peu le cas d'étude parfait de comment le numérique fonctionne aujourd'hui, enfin de comment il a toujours fonctionné, de comment il se développe, quoi. C'est, on a une idée, hop, ça se développe, tac, il y a toute la technologie qui se met derrière en place, et puis du coup ça prend des grandes proportions. Ce qui serait pas gênant si on n'avait pas de contraintes sur l'énergie et les ressources. Du coup, la vidéo, puisque ça représente 60%, ça veut dire que ça va concentrer une grosse partie du trafic et donc une grosse partie des données, en fait, qui vont transiter derrière. Et donc derrière, ça va réclamer beaucoup d'énergie pour faire fonctionner donc les trois ensembles, les terminaux, les infrastructures réseau et les centres de données. Et en fait, à chaque fois qu'on utilise de l'énergie, quand bien même c'est de l'électricité, il y a émission de CO2 derrière, parce qu'il y a des centrales qui sont là pour nous produire cette énergie, et du coup, ça émet du CO2. Donc, c'est ça qu'on a quantifié. On a quantifié, du coup, quelle énergie et quelles émissions étaient associées au transit de toutes ces vidéos dans le monde, et on arrive à 300 millions de tonnes de CO2 par an, donc en 2018. C'est à peu près stable d'une année sur l'autre. Et donc 300 millions de tonnes de CO2 par an, c'est l'équivalent de ce qu'émet l'Espagne en un an. Donc ça veut dire que toute la vidéo qu'on consomme dans le monde en un an, ça émet autant que toute l'économie espagnole. Donc voilà, ça permet juste de se rendre compte que la vidéo, quand bien même c'est un usage qui est purement virtuel, c'est que de l'image, bah en fait, le simple fait de la consommer, ça va réclamer derrière plein de choses qu'on ne voit pas parce que c'est derrière notre écran, et en plus maintenant il n'y a même plus de fils qui sont branchés. Enfin, très peu de gens utilisent l'Ethernet, quoi. Donc ça passe par le Wi-Fi, c'est des choses vraiment qui sont très distantes. Mais bon, il y a vraiment une consommation qui est derrière. Donc c'est directement lié à nos usages et à ce qu'on en fait.
Et en tant que consommateur, est-ce qu'on peut savoir quel site serait plus engagé? Quel site pourrait peut-être choisir faire appel à des serveurs moins énergivores ou pas du tout?
Alors il y a Greenpeace notamment qui a fait une étude en 2017, si je ne dis pas de bêtises, sur les fermes de serveurs et l'électricité qui est utilisée pour les alimenter. Alors c'est intéressant, on va dire déjà en termes de déclaration d'intention par les sites. Il faut dire qu'il y a certains sites qui en tout cas ont mis un peu d'argent dans faire quelque chose. Mais il faut garder en tête que l'électricité qu'on utilise, et même que les centres de données utilisent, c'est l'électricité du réseau. Donc ils vont souvent acheter des espèces de tickets énergie qui vont servir à financer des projets d'électricité verte. Le problème, c'est que cette électricité propre, c'est comme ça qu'on l'appelle, si elle se rajoute à l'électricité qu'on utilise déjà, à l'énergie qu'on utilise déjà, en fait, ça sert à rien. Parce que là, on est dans un contexte où on veut diminuer nos émissions. On n'est pas là à se dire, bon, il faut qu'on augmente, mais pas trop. Non, ça ne marche pas. Enfin, sauf si on décide de ne pas répondre aux objectifs. Mais si on veut vraiment répondre aux objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés, il faut qu'on diminue les émissions, diminuer notre consommation d'énergie. Du coup, ce type de démarche est intéressant, mais absolument pas suffisant, dans le sens où il faut de toute manière se mettre... faut prendre un peu de recul, en fait, voir un peu la big picture, et puis se dire, bon, bah, d'accord, si je veux baisser la consommation, je veux baisser la consommation, je veux pas juste financer des projets d'éoliennes pour avoir le droit de construire un autre centre de données. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est pas... pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va changer le game, quoi.
Ouais, bien sûr. Et en tant que consommateur, bon, évidemment, on peut aussi limiter l'usage de la vidéo en ligne, même si ça fera pas tout. À une plus grande échelle, qu'est-ce qu'on pourrait envisager en France, en Europe, ou même à l'échelle mondiale ? Est-ce qu'il y a déjà des réglementations qui ont été mises en place, quelque chose pour freiner cet usage intensif de la vidéo, pour limiter ou pas du tout ?
Pas du tout. mais par contre, tout est prêt pour le faire. C'est le constat du coup qu'on a fait dans notre rapport de juillet. C'est que réguler les usages numériques, les usages en ligne, c'est pas quelque chose d'absurde. Alors déjà, on va revenir sur le thème réguler. Réguler dans son sens premier, ça veut bien dire adapter des usages pour assurer la résilience du système. Et c'est ce qu'on propose avec la sobriété. Ce qu'on propose, c'est de prendre nos usages et de trouver la manière de les faire rentrer dans les contraintes pour que le système numérique puisse continuer à fonctionner. Parce que si on considère bien que les contraintes énergie-climat, c'est des contraintes qui sont physiques, c'est pas un homme politique qui a dit « Ah, oh, on va inventer des contraintes ». Non, c'est un truc, il n'y aura pas de référendum contre les contraintes. Donc c'est des choses qui de toute façon vont s'appliquer, parce que c'est comme ça que la physique marche. Bon, bah, si on considère bien ça comme point de départ, alors on comprend qu'il faut réfléchir à comment changer nos systèmes, tout simplement pour qu'ils continuent d'exister, puisque c'est bien ça le débat. Hein. On n'est pas, oui, on veut sauver les pandas, mais parce qu'on aime les pandas nous. C'est pas, il y a pas de question universelle là-dessus. Donc on veut préserver nos systèmes, nos écosystèmes dont font partie les animaux. Mais c'est un point de vue terriblement anthropocentré en fait. Donc le système numérique est un système à part entière. Faut trouver comment on fait pour qu'il soit compatible avec les contraintes, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Donc comment on régule nos usages, comment on adapte nos usages. Pour réguler les usages, il y a l'outil réglementation, qui est le premier auquel on pense. Mais il y a aussi tous les outils auxquels on pense pas et qui sont déjà en place, qui visent à orienter nos usages. Par exemple, je suis dans un supermarché, j'ai trois marques de yaourt devant moi, qui sont complètement identiques et qui ont le même goût et le même teneur en sucre. Bon, bah, la marque que je vais choisir, c'est le résultat de tout un tas d'outils d'influence qui ont été mis en place, qu'on appelle le marketing. Donc ça veut dire qu'on sait déjà se donner envie de faire des choses. Voilà. On sait se donner envie de changer de comportement. Donc on a les outils pour faire ça. Ensuite, l'outil réglementaire, donc, on a aussi les outils pour le faire, dans le sens où on a déjà des organes régulateurs, tous les régulateurs des comportements en ligne, en fait, des réseaux, l'ARCEP, la CNIL, la DOPI, etc. C'est des organismes qui ont la compétence et le pouvoir de réguler des usages. Alors, la question de la faisabilité du coup politique, parce qu'on nous parle du coup souvent de neutralité du net, et oui, mais est-ce que limiter le visionnage de vidéos en ligne, ça n'atteint pas la neutralité du net ? Bon, nous ce qu'on propose, c'est pas de dire « tiens, on va bloquer YouTube, fin de l'histoire ». On propose de mettre en place... Et ça va rester flou parce qu'en fait la réalisation pratique de la chose, c'est quelque chose qui soit construit par les experts, donc par les régulateurs, les législateurs et les plateformes et consommateurs. Donc pas le shift, hein. Le shift, c'est, on a une expertise sur la vision globale et sur la synthèse avec des consultations d'experts, mais on n'est pas capable de pondre un tuto de comment réguler les usages exactement. Donc on propose la méthodologie et du coup cette méthodologie, donc voilà, c'est de prendre les designers qui sont ceux qui conçoivent les plateformes et donc orientent nos usages par la forme qu'ils donnent aux plateformes, les plateformes elles-mêmes qui sont celles qui décident de comment on veut orienter les usages, les législateurs qui sont les pouvoirs publics et qui en fait ont pour rôle de faire en sorte que notre société elle perdure, et les régulateurs qui ont le pouvoir de transformer la loi en pratique. Et s'ils peuvent transformer la loi en pratique, c'est parce que en fait, il y a un postulat de base qu'on a tendance à oublier quand on parle de changer nos usages. C'est que ça s'est toujours fait, et c'est pour ça que spontanément, dans toute société humaine, il y a un ensemble directeur en fait, qui apparaît. C'est parce qu'on considère qu'il faut qu'on s'impose des règles collectivement pour que nos comportements individuels ne soient pas délétères pour la société. Et en ligne, bah, on a limité. La pédopornographie fait partie des choses qu'on n'a pas le droit d'aller voir sur Google. Ça n'a posé de problème à personne. Enfin, en tout cas, pas publiquement, je veux dire. Donc, ça vient juste du fait qu'on a considéré, à un moment donné, que la pédopornographie était délétère pour la société. C'est pas bien de regarder des enfants nus. Bon, super. Donc, une fois qu'on est d'accord là-dessus, on met en place les outils qu'il faut pour réguler ces usages. Puisque là, on est dans un contexte où, en plus, on parle d'état d'urgence climatique, ça veut dire qu'on considère que les contraintes climatiques, c'est des contraintes qui sont délétères pour la société. Donc, ne pas s'y adapter est délétère pour la société. Donc, les usages qui vont à l'encontre de cette adaptation à ces contraintes sont délétères pour la société. Bon, bah, si c'est bien le postulat de base, et si tout le monde est d'accord là-dessus, alors déclinons ça, comme on l'a fait pour la pédopornographie, en mesure pour réguler les usages. C'est quelque chose qui est faisable. Donc, il n'y a rien qui existe vraiment encore de cette manière-là, mais c'est quelque chose pour lequel, en fait, on a tout est prêt, quoi. Faut juste mettre les bons acteurs autour de la table et commencer à y travailler une bonne fois pour toutes.
Et avec votre rapport, est-ce que vous l'avez diffusé à ces différents interlocuteurs ?
On est en train. Parce que du coup, juillet-août, oui. Donc on a eu 2 mois d'été pour commencer à le faire. Mais oui, en fait, on a eu beaucoup de retours médias, parce que c'est justement un sujet qui est parfait pour ça, dans le sens où ça intéresse le consommateur directement parce qu'il comprend tout de suite de quel usage on parle. Ça intéresse les designers parce qu'ils sont en plein dedans. Ça intéresse les plateformes parce qu'elles sont en plein dedans. La vidéo, c'est quelque chose qui est omniprésent sur Internet et dont on se sert pour alimenter les business models qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc ça a eu beaucoup d'intérêt et oui, on le diffuse et on est en contact avec différents représentants justement de ces différents acteurs, donc des fournisseurs de services, des créateurs de contenu, des organismes régulateurs, des designers. Donc voilà, on n'en est pas encore à avoir pondu des solutions pratiques à échelle collective, quoi, qui soient vraiment efficaces. Mais je pense que c'est quelque chose pour lequel on a vraiment les outils, quoi.
Je pense que pour la vidéo, c'est aussi très percutant parce qu'on voit tous l'évolution, par exemple sur Facebook, de la vidéo qui maintenant, à chaque poste, t'as une vidéo, ça prend de plus en plus de place. Donc c'est assez facile pour le consommateur de se rendre compte de l'impact. On regarde tous plusieurs vidéos par jour, que ce soit sur Instagram, sur Facebook.
Bah d'ailleurs, maintenant, quand on scrolle sur Facebook, la vidéo se lance toute seule et ils ont rajouté les sous-titres. Mmh. Donc, on s'est tous déjà retrouvés à regarder une vidéo en entier sans avoir aucune idée de pourquoi on l'a regardée et sans vouloir en fait la regarder.
Sans que ça nous intéresse.
Ouais. Bon, bah, du coup, ça, c'est un mécanisme très efficace pour se donner envie de faire quelque chose. Donc, on a bien déjà les outils qui sont prêts pour...
Ouais, pour le faire.
Ouais, voilà, pour faire des choses sans y penser. Il n'y a bien pas de souci pour ça.
Et donc, vous travaillez en France. Mm-hmm. Est-ce que tu sais si aux États-Unis, par exemple, pays de Facebook, ou même dans les pays nordiques, il y a des choses qui ont déjà été mises en place ?
Alors, mises en place, du coup, non. Mais par contre, il y a des travaux qui sont faits. Je suis plus au fait de ce qui a été fait au sein de l'Union européenne, pour le coup. Mais oui, il y a des travaux qui sont faits donc sur les usages, ne serait-ce que dans les milieux universitaires en fait, en termes de recherche sur les recherches des sciences de comportement et des sciences sociales. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites partout dans le monde sur d'où viennent nos usages et comment on fait. Et aussi, bah, forcément, les ONG, etc. Enfin, c'est une question qui est centrale dans le monde entier, hein, sur comment on va changer nos comportements. Après, du coup, au niveau institutionnel, on va dire, c'est là que je suis en place sur ce qui est fait au niveau institutionnel aux US. Mais par contre, en Europe, et je pense que d'ailleurs, c'est une des forces de l'Europe, on a déjà des projets qui sont en cours au sein de la Commission sur l'efficacité des centres de données, sur dresser un portrait un peu du système numérique en général, enfin au total, et de le relier à sa consommation électrique et énergétique. Enfin voilà, c'est des sujets qui sont déjà au travail en fait. Ils sont en train d'être travaillés au sein de la Commission. Il y a déjà des choses qui ont été produites, d'ailleurs des choses qu'on a réutilisées. Et je pense que c'est la bonne échelle en plus, dans le sens où Internet, c'est pas un problème qu'on peut gérer nationalement, c'est pas un truc vu que c'est forcément international en fait. L'Europe c'est la bonne échelle pour y réfléchir, parce que c'est un ensemble qui est gros, donc les acteurs du numérique peuvent pas se passer de l'Europe, Et en plus, on va dire que culturellement, je pense que l'Europe, c'est un ensemble qui a ce truc qui traîne de vouloir bien faire. Mmh. C'est-à-dire que, on l'a vu avec la RGPD d'ailleurs, l'Europe est capable tout d'un coup de dire on va mettre en place des mesures qui sont contraignantes, enfin qui sont efficaces par principe éthique. Bon. Vu qu'on a vu que c'était possible par principe éthique et que là en plus nos contraintes sont physiques, donc il n'y a même pas d'éthique à débattre, bon, je me dis que on peut le faire quoi, si on s'y met sérieusement.
Et en parallèle de votre travail avec le Shift, la 5G va bientôt être lancée, mm-hmm. ou est en train de se lancer, je ne sais pas trop où ça en est. Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'il faudrait repenser pour aller vers plus de sobriété numérique ? J'imagine que oui.
Oui, et repenser, c'est exactement le bon mot. C'est-à-dire que déployer la 5G, on n'a pas encore les chiffres, hein, mais... en termes de consommation énergétique, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va déployer la 5G au grand public comme on a déployé la 4G. Ça va offrir des millions de nouveaux usages qui vont être consommateurs en données et on va remplir les tuyaux. C'est ce qu'on fait. On a grandi le tuyau, on le remplit avec plus de données, quoi. Et du coup, la 5G, il pourrait être pertinent parce qu'apparemment, il y a aussi des usages qui pourraient être sociétalement très intéressants en télémédecine, etc. Bon, il faudrait éplucher ces différents usages, quantifier ce que ça nous coûte. On ne peut pas quantifier ce que ça nous apporte quand c'est des apports sociétaux, mais regarder ce que ça nous apporte et se dire, bon, est-ce que ajouter cette consommation énergétique, ça vaut le coup au vu de ce que ça apporte ? Et en fait, on devrait réfléchir comme ça pour toutes les technologies qu'on met en place. En fait, on a une inventivité qui est folle. Et le numérique, ça a décuplé la puissance de cette inventivité. Et c'est une très bonne chose, hein, c'est un signe de bonne santé de nos sociétés. Le problème, c'est que maintenant, on a des contraintes et qu'il faut absolument les prendre en compte pour savoir si l'idée qu'on a eue sur le papier, on prend des ressources pour la transformer en quelque chose de matériel ou alors est-ce que finalement, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Du coup, la 5G, voilà, ça s'inscrit là-dedans. Est-ce que c'est une bonne idée ? Sans doute, peut-être qu'il y a des cas où ça l'est. Mais il faut bien les choisir, sinon on va encore faire un truc qui va être terriblement énergivore, parce qu'en plus il faut remplacer toutes les installations, etc. Enfin, c'est un truc conséquent, quoi.
Ouais, il va y avoir des déchets numériques à
voilà, niveau. Bon, ça serait bien de le réfléchir avant de lancer de faire un plan, c'est ce qu'on conseille au Shift. Juste faisons un plan, puisqu'on a les éléments pour le faire, donc au lieu d'avancer comme ça à tâtons en disant on va faire ça, et puis après on se dit on n'aurait pas dû, oui, alors il a juste fallu en discuter avant, quoi. Voilà.
Mais c'est trop tard pour la 5G.
Pour la 5G, il y a une marche qui est déjà en œuvre. Après, il y a beaucoup de contestations sur plein de points. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un plan qui est amendable, mais j'imagine que ça peut l'être. Donc, faut y travailler intelligemment.
Espérons. Dans votre rapport, vous proposez aussi une boîte à outils pour les consommateurs, pour les auditeurs, enfin pour tout le monde. Est-ce que tu peux revenir sur les trois outils que vous proposez et les détailler un petit peu ?
Dans le rapport sur la vidéo.
Ouais. Ça, ouais.
Alors du coup, le premier, c'est... le premier, en fait, c'est une vidéo.
Ouais, regardez.
Donc le premier, c'est une vidéo qui s'appelle « Cette vidéo réchauffe le climat ». Regardez-la, s'il vous plaît. On a fait une vidéo de vulgarisation avec un cabinet en fait de communication et vulgarisation scientifique qui s'appelle Science Explainers pour synthétiser ce qu'on a voulu dire dans nos deux rapports sur le numérique. On a voulu le synthétiser parce que puisqu'on pose la question véritablement à la des usages avec ce deuxième rapport, on a voulu que les usagers, ceux qui construisent qui construisent leurs propres usages, puissent comprendre véritablement de quoi on parlait. Donc c'est la première chose, c'est la vidéo. La deuxième, c'est un petit add-on pour Mozilla, un petit plugin, qui s'appelle Carbonalizer, qui était chargeable du coup sur notre site gratuitement, et qui, en fait, quand on le lance, va comptabiliser les échanges, les flux de données qui vont passer à travers le navigateur. Et ça va nous permettre après, donc par un calcul comme celui qu'on a utilisé pour la vidéo, de quantifier la consommation électrique, qui est associée à notre navigation en ligne. Et ensuite, du coup, on traduit ça en émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet en fait, en tant qu'utilisateur, de se rendre compte de comment cette consommation électrique qui est derrière notre écran, elle apparaît, elle se développe. Parce qu'on peut donc visualiser les sites sur lesquels on a été et l'importance des données qui ont été transférées. Donc par exemple, on se rend vite compte que aller sur Facebook, quand on ouvre Facebook, bam, y a un gros paquet de données qui arrive, c'est des pages qui sont très lourdes. Mais si on va sur YouTube, 30 secondes de vidéo et hop, c'est réglé, c'est YouTube qui prend la première place. Du coup, ça permet voilà, de visualiser un peu en temps réel, en fait, comment les données transitent et quelle quantité de données on est vraiment en train de consommer quand on navigue. Et le troisième outil, du coup, qui est un outil qui est beaucoup plus technique pour le coup, c'est le guide de réduction du poids des vidéos, du volume des vidéos. Et du coup, c'est à destination de ceux qui vont mettre en ligne des vidéos, ceux qui vont les publier. Et du coup, ça fait partie de toutes les techniques en fait, qui jouent sur l'encodage et sur les options d'encodage des vidéos qui permettent de réduire drastiquement le poids des vidéos sans altérer de manière horrible, en fait, ou quasiment non perceptible, la qualité. Ce dernier outil, il est à utiliser en gardant en tête que si je divise par deux le poids de ma vidéo mais que j'en mets deux fois plus, ça n'a aucun sens. Donc c'est à nombre de vidéos constant, on va dire que c'est utile.
Oui, sinon c'est pas logique.
C'est ça.
Et donc ça c'est des outils que vous avez développés, l'add-on pour Firefox et compagnie.
Oui, ouais, on les a développés du coup en partenariat avec des développeurs, des designers justement.
Donc ça fait aussi partie des choses que vous faites au Shift et pour aider les consommateurs et les citoyens.
C'est ça, on essaye de créer des outils en fait pour comprendre un peu ce qu'on raconte, parce que du coup nos publications s'adressent beaucoup aux décideurs et là du coup on a voulu justement, parce qu'on posait la question des usages, on a voulu décliner un peu ça et donner une vision plus directe, plus individuelle. Voilà, on a voulu donner une vision plus individuelle des problématiques. C'est pour ça que du coup on a travaillé en partenariat avec un designer et un développeur, notamment Richard Anna et Gauthier Roussil, pour développer la donne.
D'accord. Et en tant que consommateur et utilisateur, est-ce que il est plus pertinent d'acheter par exemple une vidéo à télécharger sur iTunes ou quelque chose comme ça pour regarder un film que de le regarder en streaming? L'impact sera réduit, ou si c'est une vidéo dans tous les cas?
Alors c'est une question compliquée parce que ça va dépendre de beaucoup de paramètres.
Ouais.
Et la quantification, on l'a pas encore faite exactement. C'est une question qu'on creuse pour sortir un peu les variables à avoir en tête. Ce qui est sûr, c'est que si c'est une vidéo qu'on a prévu de regarder tous les jours, il vaut mieux la télécharger une bonne fois pour toutes et l'avoir sur son disque dur. Parce qu'en fait, le streaming, c'est un téléchargement temporaire, quoi. Donc à chaque fois qu'on va la re-regarder, hop, on va la re-télécharger. Du coup, c'est le genre de choses à avoir en tête. Après, ce qui est sûr, c'est que de toute manière, regarder une vidéo, bon, c'est lourd. Pour avoir une idée, c'est un ordre de grandeur qu'on donne dans le rapport, 10 heures de vidéo en haute définition, en termes de volume de données que ça représente, c'est un peu plus que le volume de données qui est nécessaire à stocker tous les articles en anglais de Wikipédia en format texte. Donc sans les images, etc., mais en format texte. C'est-à-dire que voilà, si on écrit Wikipédia, si on veut vraiment faire une encyclopédie, en termes de volume de données, ça tient dans 10 heures de film en haute définition. Donc, ça veut dire que la vidéo, c'est un vecteur d'information qui est très lourd en termes de données. Pour communiquer la même information entre l'écrit, l'image ou la vidéo, ça sera forcément plus lourd. C'est pas le même ordre de grandeur, quoi. Donc, c'est la chose principale à garder en tête, on va dire. Évidemment que les actions individuelles suffisent pas à faire pencher la balance, mais par contre, ça nous permet de savoir quelle société, en fait, on veut demander. Ça nous permet de se questionner sur mes usages. Ben, ça me force à me dire, en fait, c'est tel type de société que je veux, tel type d'usage collectif. Et du coup, oui, sur les vidéos, c'est utile de se demander, est-ce que je suis en train de regarder cette vidéo parce qu'elle m'intéresse, ou est-ce que je viens juste de tomber dans les bas-fonds de YouTube en regardant un truc qui ne m'intéresse pas. Enfin, on a tous déjà retrouvé à 2h30 du mat en train de regarder un chat qui fixe une pastèque pendant 10 minutes, et c'est pas forcément rigolo, mais bon, là, il est tard, je suis fatigué, je continue de le regarder. Et la vidéo d'après, c'est un chien qui fixe une pastèque et je vais quand même le regarder. Bon, bah, voilà, juste se demander si je suis en train de regarder quelque chose parce que j'en ai envie et j'ai un intérêt ou pas. Et même à titre purement personnel, en fait, c'est intéressant, hein, de savoir comment on gère notre temps, parce que c'est le seul vrai capital qu'on ait, hein, notre temps. Mmh. Donc, c'est intéressant de savoir quand est-ce que j'utilise mon temps parce que je l'ai décidé ou quand est-ce que je l'utilise parce que Facebook l'a décidé, quoi. Donc, voilà. Et pas seulement sur les vidéos, sur le smartphone par exemple, les données mobiles ça consomme beaucoup plus que le Wi-Fi. Un truc qui est en fait facile à mettre en place, d'expérience, hein, c'est de couper ses données mobiles, de se mettre sur le Wi-Fi quand on a le Wi-Fi, et quand on n'a pas le Wi-Fi, d'allumer les données mobiles quand on en a besoin. Et bon, bah, ça permet juste de se mettre dans une position où je réfléchis à ce que je fais. Et bon, bah, c'est intéressant. C'est dur, hein, de savoir quand est-ce que je fais des choses parce que je l'ai vraiment décidé ou quand est-ce que je l'ai fait parce que c'était devant moi. C'est dur, il n'y a pas de réponse unique, mais vraiment, c'est un exercice qui est intéressant parce que après, on sait quoi demander en fait. Quand on dit bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez en termes d'usage, bah voilà, on peut répondre bah moi, il y a tel cas où j'ai bien vu qu'en fait, j'avais pas envie. C'est une expérience individuelle qui est intéressante et qui est en fait nécessaire si on veut construire un truc qui marche à terme.
Ouais, et puis c'est vrai que maintenant, on capte partout, dans le métro, donc on est tout le temps sur son téléphone. Mmh. Et encore en France, je trouve que c'est un petit peu mieux qu'à Hong Kong, où alors là, tu rentres dans le métro et personne ne lève la tête. Je pense qu'il n'y a pas une personne sans smartphone, ou alors oui, et c'est un papy de 85 ans, et voilà. Et ça me désole à chaque fois.
Oui, si c'est un comportement addictif, c'est vrai que c'est... Après, si c'est une décision délibérée d'une personne de dire bah, « moi, j'ai envie de rester sur mon smartphone », oui, mais on sait tous que la plupart du temps, c'est parce que ça fait « ting » et qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. Ouais. C'est un mécanisme neurologique automatique, quoi. Bon, c'est intéressant de s'en rendre compte.
Oui, et puis maintenant, tout s'enchaîne. Je pense à YouTube, où tu dis qu'on se retrouve à fixer un chat qui fixe une pastèque. Mais c'est vrai, mais les vidéos s'enchaînent et on ne se rend même plus compte en fait, de ce qu'on consomme.
C'est fait pour, dans tout ce qu'on appelle les designs addictifs, c'est fait pour nous faire perdre la notion de début et de fin d'un contenu. C'est comme ça en fait qu'on peut se retrouver à scroller pendant des heures alors qu'on a l'impression que s'il se passait 20 minutes. Mmh. Parce que notre cerveau il a besoin de repères et c'est comme ça qu'on est passé de cliquer sur page suivante à Facebook où on scrolle. Mmh. Et avant d'avoir fini de scroller, le soleil aurait explosé quoi. Enfin, donc c'est vraiment basé là-dessus. L'autoplay c'est la même chose. On voit pas la Netflix, c'est pas anodin de sauter le générique de début et le générique de fin, c'est parce que du coup ça s'enchaîne. Donc un truc qui fait 3 saisons d'épisodes d'une heure, c'est un film de 30 heures. On peut le regarder comme un film de 30 heures, il n'y a pas de souci avec ça.
Ouais.
Donc effectivement, ouais, c'est basé sur cette idée de perte de repères temporels, et donc c'est intéressant d'essayer de reprendre la main sur ce repère temporel. Voilà, ne serait-ce que pour reprendre la main sur la manière dont on utilise notre temps, quoi.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je renverrai les auditeurs vers, évidemment, le site du Shift qui est très complet. On peut également aussi télécharger le rapport sur le numérique. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Et aussi les 3 petits outils dont la vidéo à regarder. Et le plugin pour Firefox. Je mettrai tout ça dans la barre de description.
Yes.
Merci beaucoup, Maxime.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà. Cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, j'indiquerai toutes les informations dans la barre de description sous l'épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Et surtout à me laisser plein d'étoiles sur iTunes, car c'est ce qui me permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À jeudi !